Je me posais la question en regardant votre discographie, votre carrière. Vous avez démarré avec Alessandro Scarlatti, avec Handel, puis Porpora, et puis Vivaldi, et ainsi de suite. Bon, vous êtes arrivé aussi, 10 ans plus tard, après 10 ans de carrière, vous êtes arrivé à la mélodie française du 19e siècle. Aujourd'hui, vous arrivez même à la musique contemporaine. Et Mozart, vous n'aviez pratiquement pas touché.
Non.
Qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant, d'aller explorer cette musique?
Alors, ce qui m'a retenu, j'avoue, on en parlait tout à l'heure, le répertoire qui est possible pour contre-ténor est un répertoire qui va du contralto grave, je pense à Farnace dans Mithridate, qui est un rôle très dramatique, un rôle un peu de méchant, très noir, et qui convient, je dirais, pas trop à ma couleur vocale. Après, dans les autres, notamment là, avec Clémence de Titus, on pense à Sesto, à Agno, Lucio Silla, Cecilio, sont des rôles qui demandent un grand ambitus vocal, et je dirais que c'est à la limite de ce que je peux faire en termes d'ambitus vocal. Donc, il y a toujours eu cette frustration, et c'est vrai que cette frustration, j'ai peut-être envie de la combler justement par l'idée de le diriger. J'avoue que les premières expériences de diriger un opéra, que ça a été le Jules César ou l'Orfeo il y a quelques mois ici, quand je dirige, comment dire, j'ai pas franchement de frustration à ne pas chanter. Donc j'écoute les chanteurs, j'essaie d'être avec eux, je respire avec eux. J'essaye de les aider le mieux que je peux et je pense que je vais avoir un bonheur infini à le faire, bien entendu dans le baroque, parce qu'évidemment il n'est pas question de lâcher le baroque, mais je l'ai dit beaucoup, alors parfois on fait jamais ce qu'on dit, hein, mais je me suis dit que je m'étais fixé mon rêve, pour tout vous dire, ça serait un jour de diriger Don Giovanni. Voilà, mais pas forcément plus. Pour l'instant, je ne suis pas forcément attiré à diriger, par exemple, les symphonies de Beethoven ou des choses plus tardives, comme Schubert, notamment. Mais peut-être que ça va venir, comme vous avez dit, dans le chant. J'avais pas prévu de faire des mélodies françaises. Et puis, on verra comment se développent les choses. C'est vrai que c'est une gageure pour moi, parce que je continue aussi à chanter. Et beaucoup de gens me demandent déjà pourquoi tu as arrêté de chanter. Et j'ai dit non, je continue. Donc, ça sera peut-être difficile d'aborder certains répertoires sans arrêter de chanter. Parce qu'effectivement, plus le répertoire est tardif, plus le travail à faire pour un chef est important et vous occupe toutes vos journées. Je vois bien, par exemple, on pense évidemment à la carrière d'une Nathalie Stutzmann, qui dirige brillamment maintenant non tous les opéras du monde, à Bayreuth, au Met. J'imagine, je la connais bien, la somme de travail qu'elle doit fournir pour arriver à ce niveau-là. Donc là, arriver à ce niveau-là, on peut évidemment plus trop s'occuper de chanter. Donc on verra dans le futur, mais chaque concert que j'ai pu diriger jusqu'à maintenant, c'est vraiment une joie énorme.
Oui, en voyant que vous veniez à Mozart et tout ça, je me suis dit, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un peu un parcours à la Harnoncourt, si je puis dire, qui a commencé avec la musique baroque, vraiment, les cantates de Bach et ainsi de suite, et puis qui, à la fin de sa carrière, dirigeait et enregistrait Brahms et Bruckner?
Oui. Alors c'est vrai que je suis sûr qu'il pensait pas probablement enregistrer Brahms et Bruckner. Donc, et moi j'ai été marqué évidemment par les enregistrements d'Harnoncourt, des symphonies de Beethoven, qui ont été un choc esthétique. Et je crois effectivement que même sur ces compositeurs-là, il y a un, je dirais un héritage du baroque. Ce langage, il y a une partie du langage qui est commun. Et dans un récitatif accompagné, c'est-à-dire avec orchestre de Mozart, si vous prenez des récitatifs accompagnés de grands compositeurs comme Handel, Hasse, Porpora, on est extrêmement proche. Donc, on sait ce que Haydn doit à Porpora, par exemple. Donc, il y a une vraie filiation. Et je ne dis pas évidemment qu'il faut diriger Mozart absolument comme du Handel. Il y a une vraie évolution. Mais il y a aussi un héritage qui fait que je crois rend, je dirais, plausible. Et totalement adéquat à un chef baroque pour ces œuvres-là. Après, c'est une question d'esthétique, je pense. Je ne suis pas sûr d'avoir des idées esthétiques encore très précises chez Mahler ou Brahms, évidemment. Mais chez Mozart, qui pour moi aussi, le jeune Mozart est presque un compositeur, je dirais, italien, un peu par provocation d'ailleurs, là. Il n'a pas encore composé en allemand, il a composé tout en italien, donc il y a vraiment une influence de l'Italie baroque, et ça m'inspire pour l'instant, évidemment.
Si j'ai bonne mémoire, il avait aussi composé en français, encore plus précocement. Il y avait un Bastien et Bastienne, si j'ai bonne
Oui, alors il y
mémoire.
a Bastien et Bastienne, il y a des mélodies aussi dans un bois solitaire, des petites mélodies. C'est aussi ce qui rend ces compositeurs-là assez fascinants. C'est que les compositeurs étaient très européens à l'époque. Et évidemment, moi je pense à Handel qui a commencé en Allemagne, qui a été en Italie, qui a fini en Angleterre. Mais la musique circulait finalement énormément. Et il y a aussi dans le programme que je propose quelque chose qui est très important. On a chez beaucoup de compositeurs, je dirais, non d'italien, ce fameux voyage en Italie, le grand tour, comme on disait à l'époque. Il fallait, pour parfaire, je dirais, son éducation, et aller absolument en Italie. Et effectivement, je sens que j'entends aussi dans ces œuvres-là l'émerveillement de Mozart qui séjourne en Italie, comme a pu le faire Handel. Ça a complètement changé sa musique, et ça a été la clé. Ces 2 années en Italie, ça a été la clé pour le grand Handel.
Alors, vous m'offrez une transition pour revenir à vous. Dernier point que je voulais aborder avec vous. Ben, vous n'avez pas fait le voyage en Italie, enfin peut-être que si d'ailleurs, mais vous avez fait le voyage à Montpellier.
Oui.
Alors, troisième année de résidence, il y aura encore de belles choses au programme, peut-être on se reverra pour en parler. Valérie Chevalier nous disait que vous. Après la résidence, vous envisagiez de garder quand même un lien particulier avec Montpellier. Alors, qu'en est-il?
Oui, alors c'est un peu trop tôt pour le dire, mais il y aura d'autres projets, bien entendu. Ça a été une résidence très très riche, puisque en dehors des premières œuvres que j'ai pu diriger, il y a eu des captations aussi pendant la pandémie. Je pense à l'oratorio de Scarlatti qui a été enregistré ici. Et puis, il y a eu des masterclass aussi qui ont eu beaucoup de succès auprès du public. Qui se trouve à la salle Molière. Il y aura une masterclass d'ailleurs cette année également. Et puis beaucoup de récitals aussi. J'ai notamment pu faire le récital l'année dernière de mon prochain disque. Donc j'ai pu le vivre en concert grâce à cette résidence à l'Opéra de Montpellier avant de l'enregistrer. Ça sera le cas d'ailleurs au mois de février où je représenterai des cantate de chambre, qui est un répertoire qui me tient aussi beaucoup à cœur, parce qu'on parle beaucoup de l'opéra, mais les cantates pour les compositeurs baroques, c'était un petit peu aussi je dirais, les quatuors. C'était un peu les lieux d'expérimentation. Donc je trouve c'est très important de revenir vers ce répertoire qui est plus chambriste. Et puis, voilà, j'espère que cette histoire d'amour, je dirais, avec le public montpelliérain et l'opéra ici va se poursuivre après la résidence, bien entendu.
Eh bien, nous le souhaitons aussi. Merci beaucoup, Philippe Jarouski, du temps que vous nous avez consacré. Je ne
Je
vais pas
vous
vous
prie.
retenir plus longtemps parce que l'orchestre vous attend pour la première répétition. Vous avez un peu le trac, j'imagine. Non?
Oui, j'avoue. J'avoue. Et d'ailleurs, cette interview m'a permis d'oublier cette séance pendant 20 minutes. C'est très bien.
Merci.
Merci beaucoup.